ce matin, nous allons considérer le plan que Christ a suivi en venant sur la terre. Déjà le plan qu'il a suivi au cours de son ministère terrestre. Et pour ce faire, nous allons lire deux passages. Tout d'abord, Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, nous pouvons déjà dire que Jésus est venu sur la terre avec une œuvre à faire, et une œuvre, c'est nécessairement un ensemble qui est enveloppé ou défini par un plan. Il n'y a pas d'œuvre que l'on commence et que l'on achève sans qu'il y ait un plan. Donc, le Seigneur avait un plan. Et puis maintenant, nous allons nous reporter dans Matthieu 5, et nous allons aborder un passage, un des passages les plus difficiles de l'Évangile. Ce n'est pas que nous recherchions la difficulté, mais nous sommes bien obligés de l'affronter. Chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Il ressort donc de ces textes que Jésus-Christ avait un plan en venant sur la terre. Il avait une œuvre à accomplir, qu'il a achevée, et par conséquent, une œuvre, étant donné l'obéissance que nous lui connaissons, l'obéissance à son Père, une œuvre que le Père avait lui-même fixé, situé, arrêté, et dont il avait en somme remis le plan, si vous voulez, à son Fils. Une même pensée, une même direction conduit le Seigneur Jésus tout au long de son ministère terrestre. C'est là une remarque que nous pouvons aisément faire à la lecture des évangiles. Et les évangiles ne se lisent pas comme n'importe quel livre, mais se lisent avec grande attention et doivent susciter une réflexion éclairée par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons nous apercevoir qu'il y a une unité, une même pensée, tout acte du Seigneur, toute parole du Seigneur, vraiment se rapporte à une direction bien nette, unique. On retrouve partout la même direction. Le Seigneur Jésus marche vers un but. Et ce but, il lui donnait un nom. Ce but, il l'appelait son heure. Je parle du ministère terrestre du Seigneur. Nous aurons l'occasion de voir le ministère actuel du Seigneur, car le Seigneur exerce toujours un ministère, maintenant, différent, qui est la suite du premier. Mais sur la terre, il marchait vers son heure. « Mon heure n'est pas encore venue, disait-il, ou l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Cela dans Jean 12, 23. Tous les actes du Seigneur, les actes qu'il appelait ses œuvres et qu'il proposait à ses contemporains et qu'il propose à nous aussi à travers les évangiles, ses œuvres, n'est-ce pas, qu'il propose comme preuve de son onction, comme preuve de son origine céleste. Croyez du moins ce que je suis à cause de ses œuvres. Eh bien, ses œuvres jalonnent la progression de son plan et en sont la rigoureuse conséquence. Toute œuvre, tout acte, toute parole découle du plan que le Seigneur avait en venant sur la terre. Et cette marche vers un but, le Seigneur en avait une conscience très claire et profonde. J'en prends pour témoin cette parole qu'il prononce tout au début de son ministère. « Abattez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et le contexte ajoute, il parlait du temple de son corps. « Abattez, autrement dit, mettez-moi à mort, et dans 3 jours je le relèverai, n'est-ce pas ?» Vous voyez comme le Seigneur marchait vers un but. Le but était Gethsémané, était Golgotha, était la victoire sur le péché et sur la mort. Mais nous allons nous arrêter particulièrement, ces choses étant dites, nous allons nous arrêter particulièrement sur ce que nous avons lu dans Matthieu 5. Parce que, je le répète, c'est un passage très difficile, généralement incompris, ou un passage qui pose des questions auxquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas pu jusque-là donner de réponse. Et il faut bien dire que la réponse est délicate à apporter. Nous allons d'abord voir le verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, la loi ou les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament. Dans un autre passage, dans Luc, le Seigneur Jésus appellera l'Ancien Testament la loi, les prophètes et les psaumes. Autrement dit, les hagiographes, les livres saints. Eh bien, peu importe que ici l'expression soit plus courte, la loi et les prophètes, c'était l'expression dont Jésus se servait aussi pour désigner tout l'Ancien Testament, toutes les Écritures qui étaient canoniques de son temps. Alors, Jésus dit qu'il ne vient pas pour abolir donc l'Ancien Testament, il ne vient pas pour l'abolir, il vient pour l'accomplir. Il faut d'abord nous intéresser au mot « accomplir ». Le mot « accomplir » revêt ici 3 sens. 3 sens qui, bien entendu, se tiennent l'un l'autre, mais 3 sens que nous pouvons distinguer. Le premier, je suis venu pour accomplir, pour observer. Jésus a observé la loi, nous n'insisterons pas là-dessus, il observe la loi, s'il n'était pas observateur de la loi, il se serait trouvé de toute évidence dans un état de péché, d'iniquité, par conséquent, la chose est exclue, mais Jésus a bien observé dans sa vie, personne ne l'a pris en faute, ou tout au moins quand on a cru le prendre en faute, c'était à tort, il est venu et il a personnellement observé la loi. Donc, le premier sens, c'est observer. Le deuxième, accomplir, c'est développer l'esprit et la portée de la loi. Développer l'esprit et la portée de la loi parce que les pharisiens, et par conséquent une part importante du peuple avec eux, en s'attachant à la lettre de la loi, en étant très attachés à la signification littérale de la loi, eh bien, désobéissaient à la loi, en réalité, ils abolissaient la loi, ils y ajoutaient d'ailleurs, tellement ils étaient attachés à la lettre, des préceptes traditionnels, qui étaient des petites observances tout à fait extérieures, et ils abolissaient la loi, c'était eux qui abolissaient la loi, et ne l'accomplissaient donc pas. Quand Jésus vient donc ici dire « je ne suis pas venu pour abolir et pour, mais pour accomplir », ce n'est pas tant qu'il se défende lui-même, n'est-ce pas, contre un reproche qu'il aurait senti parmi ses auditeurs, mais c'est qu'il voit que ses auditeurs, il est au devant d'un peuple qui, en réalité, lui, abolit la loi tout en croyant l'accomplir, il l'abolit et ne l'accomplit pas. Il va donc falloir développer l'esprit de la loi, l'ouvrir à un entendement différent, nouveau, pour qu'elle soit accomplie. Et troisième sens d'accomplir, c'est réaliser tout ce qui est prophétique, tout ce qui est type dans la loi, réaliser cela, remplacer, en somme, les ombres, je fais allusion aux Hébreux que nous allons revoir tout à l'heure, remplacer les ombres, ce qui était ombre des choses à venir, par la réalité. Accomplir donc les prophéties, les types, et remplacer les ombres par la réalité, puisque Jésus vient avec la vérité et la grâce. Ainsi, accomplir les Écritures de l'Ancien Testament, c'est en apporter le développement, et ce développement va s'ouvrir sur un plan spirituel. C'est pas toutes ces choses qui sont purement extérieures et qui sont vues de plus en plus comme des observances extérieures, tout cela, n'est-ce pas, va s'élever sur un plan spirituel et prendre une signification spirituelle dans tout le cadre de l'amour de Dieu. Le développement va se faire dans l'amour et l'on va voir que la loi, en réalité, se résume dans l'amour. Voilà, n'est-ce pas, le développement que va faire le Seigneur Jésus. Du plan matériel, du plan extérieur, le Seigneur va transporter le commandement de Dieu sur le plan spirituel. L'ancienne alliance, dans ce développement, va se muer en nouvelle alliance. Et nous verrons qu'il n'y a pas de cassure, de solution de continuité, c'est-à-dire, en somme, une rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qui se mue, ou l'Ancienne Alliance qui se mue en Nouvelle Alliance. L'accomplissement dont parle le Seigneur Jésus va toutefois, non pas abolir, mais devoir faire abandon des institutions inhérente à l'ancienne alliance, les ordonnances qui étaient des ombres, des choses à venir, des figures, des choses à venir, vont disparaître sans être abolies. Je vais y insister encore tout à l'heure. Lisons d'abord dans les Éphésiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Car il est notre paix, Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Voyez-vous, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, il va donc y avoir des institutions spécialement faites pour le judaïsme, n'est-ce pas, pour cette nation dont nous allons reparler, qui vont tomber d'elles-mêmes, n'est-ce pas, qui vont tomber d'elles-mêmes dans ce développement qui va s'opérer. Et nous allons lire au chapitre 8 des Hébreux. Je ne vous cache pas, et je pense que vous vous en apercevez bien tout seul, que ces choses sont délicates, difficiles, mais, chers amis, comprenez-les, efforcez-vous de les comprendre, réfléchissez-y encore après que nous aurons fait cette méditation. Essayez de vous souvenir de tout cela, d'y penser vous-même, c'est une nécessité pour que votre foi ne soit pas, sur tous ces points-là, ne soit pas flottante, et que vous sachiez pourquoi, en somme, nous n'avons pas quelque part un autel avec des sacrifices d'animaux, n'est-ce pas? Parce que si nous devions observer la lettre de l'Ancien Testament, il nous faudrait tout cela. Alors, nous allons lire dans le chapitre 8 des Hébreux. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était de la terre, Jésus-Christ, n'est-ce pas? S'il était de la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Jésus n'est pas venu faire des sacrifices d'animaux, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ici, n'est-ce pas, le rédacteur de l'Épître veut nous rappeler qu'il y a un tabernacle céleste, et qu'il y a par conséquent, n'est-ce pas, quelque chose de tout à fait céleste et spirituel, dont le temple sur la terre, le temple de Jérusalem, ou avant lui le tabernacle, n'était que des ombres. Verset 6. « Mais maintenant... » Maintenant, il, c'est-à-dire Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voyez-vous comme nous allons vers un plan spirituel, n'est-ce pas? Nous quittons les ordonnances charnelles pour aller vers un plan spirituel. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, ça c'est la communion avec le Seigneur. Verset 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le pardon des péchés ouvre la porte à la communion. Verset 13, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Donc l'ancienne alliance disparaît. Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit-il que l'ancienne alliance est prêt de disparaître? C'est parce que, quand il écrit l'Épître, elle n'a pas disparu. Cette alliance, n'est-ce pas, continue, poursuit encore sa carrière. Et elle va disparaître en l'an 70. En l'an 70, lorsque le temple et la ville de Jérusalem seront détruits par le général romain Titus. Alors, nous voyons donc qu'il va y avoir substitution d'une alliance à l'autre. Mais Jésus nous a dit aussi, je suis venu non pour abolir. Ah, voilà, là, n'est-ce pas, les difficultés commencent à se présenter. Accomplir, nous avons assez facilement peut-être compris la chose, mais voici que le Seigneur nous dit, je ne suis pas venu abolir. Ah non, je ne viens pas abolir. Alors, comment le remplacement de l'ancienne alliance par la nouvelle, telle que nous venons de le voir, va-t-il pouvoir s'opérer puisqu'il n'y a pas abolition? Eh bien, c'est là qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Et il faut ouvrir, je ne dis pas son intelligence, si vous voulez, l'intelligence doit être un passage, un moyen, il faut ouvrir son cœur avec la foi, il faut mettre en avant la foi. Pourquoi la nouvelle alliance remplace-t-elle l'ancienne alliance, puisque rien ne doit être aboli? Mais si la nouvelle alliance remplace l'ancienne alliance, eh bien, cette nouvelle alliance, en réalité, elle ne vient pas comme quelque chose de tout neuf, n'est-ce pas? Elle vient remplacer l'ancienne alliance, mais elle s'appuie sur elle. Comme les superstructures d'un bâtiment s'appuient sur la fondation. Elle s'appuie sur elle. Les dispositions antérieures, même les ombres des choses à venir, les dispositions antérieures préparaient un temps nouveau. Israël n'était pas là, n'est-ce pas, avec sa loi, pour que l'éternité se déroule de cette manière-là, dans ce cadre-là. N'est-ce pas? C'était un temps de préparation pour un autre temps. Et les dispositions, donc, de l'ancienne alliance préparaient la venue du Messie. Et beaucoup de Juifs le savaient, ils attendaient le Messie. Et si les dispositifs de la préparation n'ont alors plus de raison d'être, s'ils prennent fin, ils ne sont pas abolis. Mais ils sont accomplis, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à leur accomplissement, eux, ils ont joué leur rôle, ils ont posé un fondement, ils ont fait une préparation à partir de laquelle la nouvelle alliance peut être apportée. Elle n'aurait pas pu être apportée sans l'ancienne alliance, sans qu'il y ait une nation juive, le salut vient des juifs, n'est-ce pas? Il fallait cela, mais le temps est venu, n'est-ce pas, de faire la construction supérieure qui, elle, s'élève à un niveau spirituel, un grand niveau spirituel, il n'y a pas plus haut niveau spirituel, n'est-ce pas, et l'ancienne alliance sert de préparation, de base, de départ. Je vais prendre un exemple pour montrer que s'il y a substitution, s'il y a transformation et en somme évolution selon un certain cycle, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas abolition. Je vais prendre des exemples dans la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. La nature est pour nous une grande parabole. Et vous savez, il est bon de s'intéresser à la nature, n'est-ce pas? Une fleur n'est pas détruite dans sa transformation en fruit. Pourquoi y a-t-il une fleur? C'est pour qu'il y ait un fruit. Et pourquoi un fruit? C'est pour qu'il y ait reproduction ou pour qu'il y ait consommation. Dans la nature, n'est-ce pas, la Genèse nous le dit, chaque espèce portera sa semence et les êtres supérieurs qui ont une vie animale, n'est-ce pas, eux vont manger le fruit des végétaux. Alors la fleur, elle est là pour qu'il y ait un fruit. Mais la fleur disparaît avant que le fruit ne se manifeste, ne grossisse et ne vienne à maturité. La fleur, en disparaissant, n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite dans sa transformation en fruit. Les pétales vont tomber. Ils étaient là pour recueillir le pollen. Ils étaient là aussi pour recueillir la lumière. Et cela, pendant un temps limité, mais dans la fleur, il y avait autre chose que les pétales, il y avait un pistil, et un pistil dont l'ovaire contient les ovules, qui donnent un fruit et des graines, n'est-ce pas, le pistil, n'est-ce pas, avec son ovaire, est garni d'ovules, lesquels, n'est-ce pas, étant fécondés, vont donner tant un fruit que des graines, n'est-ce pas, ou des pépins, si vous voulez, n'est-ce pas, et nous allons avoir un fruit. Il y a donc là un processus, n'est-ce pas, harmonieux, qui se poursuit. Depuis, dès avant la fleur d'ailleurs, parce que on pourrait dire, mais au mois de janvier, alors qu'il n'y a plus qu'un tronc et des branches nues, où est la fleur? Où est-elle à ce moment-là, la fleur, qui va apparaître au mois d'avril? Où est-elle? Eh bien, pourtant, n'est-ce pas, suivant un certain processus, la fleur va apparaître, et la fleur, elle, va donner le fruit. Il n'y a pas abolition, il y a passage d'un état à l'autre, d'un stade à l'autre, tout le long d'un processus harmonieux voulu par le Créateur. Ainsi en est-il de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. La chenille n'est pas détruite quand elle se transforme en papillon. Elle n'est pas détruite. Si vous l'écrasez, il n'y aura pas de papillon, n'est-ce pas? Eh bien, mais elle n'est pas détruite. Il y a là encore un cycle, un processus de transformation qui, de la chenille, va nous donner un être tout à fait différent, n'est-ce pas, le papillon. Eh bien, ainsi en est-il de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Comprenez-vous ces choses? Voilà ce que le Seigneur Jésus, vous savez, le Seigneur Jésus parle souvent un langage qui est très profond, très délicat, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Le Seigneur Jésus, tout en employant des mots exacts, n'est-ce pas, ne reste pas ou ne confie pas, si vous voulez, sa pensée seulement au sens littéral de ce qu'il dit de son discours, n'est-ce pas? Il faut vraiment que l'esprit éclaire son discours pour qu'on en comprenne la profondeur. Eh bien, voilà donc ce que veut dire le Seigneur en disant qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et cependant, dans cet accomplissement, il va y avoir suppression des choses qui ne sont plus utiles, n'est-ce pas, des pétales et de différents éléments, n'est-ce pas, de la fleur, et l'on ne va plus trouver qu'un élément nouveau, le fruit. Ainsi, le culte lévitique, je prends là une précision dans l'ancienne alliance. Il y avait dans l'ancienne alliance un culte lévitique. Le culte lévitique était l'ombre, était une ombre. Vous savez ce que était le culte lévitique, n'est-ce pas? Il y avait toujours un sacrifice d'animaux, immolation, suivant un certain cérémonial. Eh bien, le culte lévitique, ombre des choses à venir, préfigurait autre chose, contenait autre chose, il contenait en germe quelque chose qu'il annonçait, qu'il préfigurait, et ce quelque chose se trouve accompli dans la nouvelle alliance, sous la forme, quoi, d'un culte raisonnable. Vous n'avez pas vu ce culte raisonnable dans Romains 12. Dans Romains 12, Romains chapitre 12, je recommande beaucoup les deux premiers versets de ce chapitre à votre attention et à votre méditation. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce sont des versets d'une très haute importance. offrez vos corps, non pas pour être brûlés sur l'autel, mais comme un sacrifice vivant, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou un culte nécessaire, ce qui sera le culte véritable que préfigurait le culte lévitique. Nous l'avons encore cela dans 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, il y a l'évocation dans ce simple verset du temple construit de pierres, et puis des sacrifices qu'on y offrait, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela, qu'est-ce que c'est devenu? Le temple de Jérusalem n'est pas entré dans la Nouvelle Alliance, les sacrifices d'animaux non plus, mais ils ont donné naissance à quelque chose, à cet édifice spirituel, n'est-ce pas, qui est fait de pierres vivantes, c'est-à-dire des membres même du corps de Christ, membres de l'Église, des rachetés de Christ, qui sont comme des pierres vivantes, qui se diffient les uns sur les autres, ils forment une maison, ils forment même un temple. Et le temple, nous savons qu'il appartient à Jésus-Christ, la maison appartient au Fils, à Jésus-Christ. Et alors, cela, pourquoi ce temple? Pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, pour offrir des victimes. Nous devons nous considérer, par conséquent, maintenant, n'est-ce pas, et le culte lévitique nous l'indique, nous devons nous considérer comme des victimes spirituelles, agréables à Dieu, et offrir notre vie constamment. Pourquoi nos corps? Pourquoi dans Romains 12 nous est-il demandé d'offrir nos corps? Qu'est-ce que nous allons faire de ces corps sur un plan spirituel? N'est-ce pas? Voilà, c'est une question qui m'avait été posée un jour par un des élèves de l'école. Qu'est-ce qu'on va faire de ce corps? Nous sommes sur un plan spirituel. Pourquoi offrir nos corps? Ils sont plutôt gênants, ces corps, sur un plan spirituel. Eh bien non, lui ai-je dit, ils ne sont pas gênants. Ils sont au contraire très utiles. Et je lui ai dit à cet élève, dites-moi, pouvez-vous faire quelque chose? Pouvez-vous aimer les autres, servir le Seigneur, en dehors de votre corps? Faites voir comment vous allez faire, en sortant de votre corps. Ah, il m'a dit, non, je peux pas. Eh bien, si vous ne pouvez pas, faites-le avec votre corps. Mais que votre corps, alors, n'est-ce pas, soit précisément offert, soit offert pour le service de Dieu et pour le service de l'amour de Dieu auprès du prochain, auprès des frères. Vous avez besoin de vous manifester par votre corps, dans votre corps. C'est pourquoi on vous demande d'offrir vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Si Jésus avait aboli, eh bien, il serait parti de bases nouvelles et de bases différentes pour la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, des bases différentes de celles de l'Ancien Testament, il y aurait eu une coupure, et par conséquent, n'est-ce pas, il n'y aurait aucune relation possible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Jésus apporte une certitude absolue, il apporte la vérité et la grâce de Dieu qui se greffe sur toutes les révélations antérieures. Toutes les révélations de l'Ancien Testament, et elles sont nombreuses. L'Ancien Testament est une période, je l'ai dit, de préparation, période de préparation du royaume de Dieu, et les assises sont posées, la sacrificature et la royauté ont été mises en place, il appartient au Messie de recueillir cette sacrificature qui était à l'état d'ombre, et cette royauté. Il appartient au Messie de s'en servir pour établir son royaume de Dieu, le royaume de Dieu, et pour, dans un temps de patience qui va s'intercaler, car le temps de l'Évangile, beaucoup l'ont vu ainsi, mais c'est vrai, est une sorte de parenthèse dans l'histoire d'Israël qui va reprendre à la fin. Ah, les choses n'ont pas toujours été vues ainsi, c'est pas ? Eh bien, le Seigneur Jésus va, lorsque il aura accompli la rédemption, alors il va appeler au royaume de Dieu tous les hommes de foi, dans toutes les nations de la terre, dans tous les peuples, sans distinction de race ou de tribu. Il va faire cela, ce travail est à faire et s'intercale pendant des siècles, n'est-ce pas, dans cette histoire du peuple d'Israël, peuple-nation, histoire qui est interrompue là. Augustin, que l'on appelle aussi saint Augustin, disait que le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien. Et que l'Ancien Testament brillait dans le Nouveau. C'est pas mal, n'est-ce pas? C'est pas mal. Notez que Augustin avait d'excellentes pensées. Il n'a pas toujours eu que celle-là. Il en a eu certaines autres qui n'étaient pas très bonnes. Mais il a eu d'excellentes pensées. C'était un penseur chrétien. Ce qu'il dit là est assez heureux. Mais une grande erreur est apparu dans le christianisme au cours des siècles, ce fut de revenir vers les formes de l'ancienne alliance et d'enlever ainsi à l'évangile sa puissance dans les cœurs. Si je reviens aux formes de la loi de Moïse, aux formes, aux ordonnances, si je reprends les habits sacerdotaux, si je reprends un sacrificateur que je vais appeler prêtre, n'est-ce pas, qui va être revêtu d'habits presque semblables à ceux que l'Exode décrit pour le tabernacle, n'est-ce pas, et si je réintroduis des rites, des ordonnances, un cérémonial, je reviens au judaïsme, et le catholicisme transpire justement les ombres du judaïsme. Il a emprunté et combien au judaïsme. Alors si je fais cela, eh bien je détruis la puissance de l'évangile sur les cœurs. C'est à quoi est arrivé le catholicisme, pour ne pas le nommer. C'est à quoi il est arrivé, ce catholicisme romain, il a détruit la puissance de l'évangile. On peut lire avec fruit l'épître aux Galates, n'est-ce pas ? La chose était donc déjà amorcée du temps de l'apôtre Paul. On retournait au judaïsme, une tentation, une erreur terrible de retourner au judaïsme. Actuellement, nous avons certains groupes chrétiens qui sont aussi tentés de retourner vers la loi et de reprendre à l'ancienne alliance toutes sortes d'ordonnances, même s'ils ont abandonné et par force les ordonnances consistant en des sacrifices d'animaux, n'est-ce pas ? Parce que vraiment, je ne crois pas qu'il existe de secte chrétienne qui fasse pratique les sacrifices d'animaux. Ça, on a compris qu'on ne pouvait tout de même pas revenir à ça. Mais ils sont revenus, n'est-ce pas, quand même, aux ordonnances de l'ancienne alliance pour les accomplir littéralement, et en cela, ils se fourvoient et tombent sous le verdict que l'apôtre Paul prononce et qui est sévère dans l'épître aux Galates. Mais dans ce que nous avons lu au chapitre 5 de Matthieu et au verset 18, nous avons quand même là une insistance du Seigneur Jésus. Verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors là, le Seigneur nous semble nous ramener à un littéralisme tout à fait étroit. Or pourtant, la suite du chapitre 5 nous le montre très bien, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais je le répète, il faut faire attention aux paroles du Seigneur, car elles sont profondes, et il ne faut pas, n'est-ce pas, conclure trop vite. Eh bien, pour comprendre ce que le Seigneur nous dit là, il faut que nous pensions à une chose, c'est que nous devons nous attendre à être traités de la manière dont nous traiterons, nous, la parole de Dieu, tout entière, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut, n'est-ce pas, s'attendre à ça. Si je tords quelque chose, si je déforme quelque chose, si j'abandonne moi-même de mon propre chef quelque chose, il faut que je m'attende à en subir les répercussions. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui rejette ma parole, celui-là a son juge, cette parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Sans rejeter la parole, il y a aussi un mépris de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qu'il ne faut surtout pas avoir. Lorsque le chrétien lit l'Ancien Testament, et il faut qu'il le lise, eh bien, il ne saurait s'affranchir lui-même. Ce n'est pas de son chef, ce n'est pas, de lui-même, délibérément, qu'il va s'affranchir de ce qu'il lit. Mais, s'il lit l'Ancien Testament, et nous disons qu'il est chrétien, donc, il est visité par le Saint-Esprit, je veux même supposer qu'il est rempli du Saint-Esprit, alors, par conséquent, le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité. Il faut qu'il lise l'Ancien Testament conduit par le Saint-Esprit. Et alors, il ne s'affranchira de rien, de ce que l'Esprit lui montrera au cours de cette lecture. Si au cours de cette lecture, l'Esprit lui dit « Tu vois ça ?» Eh bien, tu es en faute vis-à-vis de ton Dieu. Là, tu déplais à ton Dieu à cause de ça, à cause de ce que tu viens de lire là. Eh bien, alors, il faut qu'il rectifie la position. Vous voyez, n'est-ce pas, à travers l'Ancien Testament, Dieu lui parlera, mais il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Et il ne faut pas que nous fassions comme les pharisiens, n'est-ce pas, que nous y trouvions des petits préceptes que nous allons au besoin opposer à notre frère, à notre sœur, avant de nous les opposer à nous-mêmes, n'est-ce pas? Des petits préceptes, n'est-ce pas, dont nous allons faire les principes d'un nouveau légalisme. Non. Mais il faut le lire avec l'Esprit de Dieu. Le lire avec l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu dit, tu vois, ça, ce que tu as lu là, eh bien, c'est quelque chose qui te dirige dans les voies de Dieu, quelque chose qui te vient de Dieu pour que tu le fasses, pour que tu l'accomplisses. Alors, il ne faut pas passer outre. Il ne faut pas dire à ce moment-là, oui, mais c'est l'Ancien Testament, je n'en veux pas. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, la lecture doit être faite sous la direction de l'Ancien Testament, et bien entendu, connaissance prise du Nouveau Testament, puisque le voile... N'est-ce pas, tous les Israélites avaient un voile en Moïse, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, ils ne voyaient pas vraiment dans la loi, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ils ne voyaient pas l'avenir, ils ne voyaient pas le développement du plan de Dieu. Mais nous le voyons et nous avons Christ. Alors avec le Nouveau Testament, à la lumière de l'Ancien du Nouveau Testament, nous pouvons lire l'Ancien avec l'Esprit. Alors, le chrétien, lisant l'Ancien Testament, aura du respect pour cette partie de la Bible, cette partie de l'Écriture. Il s'assurera d'une chose, s'il ne fait pas quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, n'est-ce pas, il est prescrit de faire un sacrifice d'expiation en prenant un agneau, etc., ou tel animal, n'est-ce pas? Eh bien, là, il sait bien qu'il n'a pas à faire cela, mais il aura quand même du respect pour l'Ancien Testament, et il s'assurera, chaque fois, n'est-ce pas, qu'il voit bien qu'il n'a pas à suivre la lettre de l'Ancien Testament, il s'assurera qu'il ne s'élève pas au-dessus de la loi, avec sa nature, avec l'orgueil, avec l'homme nouveau, qu'il ne s'élève pas au-dessus de la loi, qu'il ne s'élève pas au-dessus de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qu'il ne juge pas la parole de Dieu, et qu'il ne décrète pas lui-même cela, nous n'en voulons plus maintenant à cause des temps dans lesquels nous vivons, parce que nous sommes dans les temps modernes, parce que la mode a changé, parce que ceci, parce que cela, il s'assurera qu'il ne s'élève pas au-dessus de la loi. S'il s'élevait au-dessus de la loi, il serait dans le péché. Le fait de s'élever, le fait de juger la loi, le placerait dans le péché. Chers amis, nous ne savons pas encore assez ce que représente l'inspiration plénière des Écritures. Nous avons besoin d'avoir une conscience renouvelée plus forte des conséquences qui s'attachent à l'inspiration plénière des Écritures. La loi contenait tous les commandements qui ont leur condensé ou leur résumé dans l'amour. N'oubliez pas ce que nous dit le Nouveau Testament, n'est-ce pas, que la loi est accomplie, n'est-ce pas, dans l'amour. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. C'est le même amour, le même esprit que contiennent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, inspirés l'un et l'autre, c'est le même esprit et le même amour divin. L'Ancien Testament contient bien des dispositions qui sont en rapport, certes, avec l'état d'enfance du peuple, comme Paul nous l'explique bien dans les Galates, avec l'état d'enfance du peuple, et Jésus affranchit ses disciples de la lettre de ces dispositions. Mais il faut se savoir affranchi, n'est-ce pas, pour œuvrer en disciple de Christ affranchi, mais ne pas, comme je le disais, s'affranchir délibérément soi-même, n'est-ce pas, par une décision de l'homme. L'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, avait été donné à un peuple qui était constitué en nation, ce que n'est plus maintenant l'Église. Cette alliance entendait le soumettre à un gouvernement de Dieu par l'intermédiaire de la royauté et de la sacrificature, mais nous ne sommes plus dans ces conditions-là, puisque tout disciple de Christ se provient de n'importe quelle nation, de n'importe quel peuple. Jésus vient donc, apparaît sur la terre en un temps où cette théocratie, c'est-à-dire ce gouvernement de Dieu, est pratiquement interrompue. Elle est interrompue sous l'occupation romaine, en raison même des infidélités du peuple. Les 10 tribus, par exemple, n'est-ce pas, sont en majeure partie dispersées. Il n'y a plus de royaume des 10 tribus. Il n'y a plus que Juda et Benjamin qui restent avec quelques vestiges des 10 tribus à travers la Samarie, n'est-ce pas, et en Galilée. Mais il n'y a plus de descendants de David sur le trône. Et il y a encore un sacerdoce à Jérusalem, mais qui est dévié de l'esprit de la loi de Moïse. Alors, n'est-ce pas, tout cela, Jésus le sait, Jésus en a pris acte, n'est-ce pas? Lorsque des cœurs conservent l'attente d'un rédempteur, comme le faisait le vieux Siméon, dont on a parlé ces jours-ci, et la prophétesse Anne, au 8e jour, n'est-ce pas, de la naissance du Seigneur, eh bien, lorsque des cœurs conservent cette attente d'un rédempteur, des cœurs qui appartiennent à l'ancienne alliance, qui appartiennent au peuple hébreu, comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste aussi, n'est-ce pas? Et puis d'autres, certainement, il y en avait d'autres. Eh bien, alors, lorsqu'il y a cela dans les cœurs, cette attente, Jésus ne vient pas pour démentir leur foi, Jésus ne vient pas pour abolir leur foi, il ne vient pas pour abolir, en somme, leur foi qui est le fruit de la loi, le fruit de la loi bien comprise. Il vient au contraire leur dire, ah, vous attendez un Messie? Vous voulez un Messie? Eh bien, le Messie, je le suis, moi qui vous parle. Il vient leur dire cela. Si Israël demande un sauveur, si Israël attend son Messie, Jésus satisfait cette attente. Vous voyez que, donc, il accomplit la loi. Il satisfait cette attente. Encore est-il qu'il faut que la loi et les prophètes guident la foi des enfants d'Israël vers le Messie promis et vers la reconnaissance du Messie dans la personne de Jésus. Jésus est donc la réalisation des promesses faites à Abraham et du serment de Melchisédek, dont j'ai fait mention dernièrement. Venant pour sauver les hommes, il accomplit l'Ancien Testament. Si on ne le voit pas comme sauveur, celui qui ne le voit pas, le juif par exemple, qui ne le voit pas comme sauveur, détruit tout rapport entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, il détruit l'harmonie des révélations divines, parce qu'il y a un rapport que Jésus situe en disant « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». Et le rapport entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance est comparable à celui qu'il y a, par exemple, entre la prière de quelqu'un et l'exaucement de cette prière, entre la demande et la satisfaction apportée à cette demande. Voilà, n'est-ce pas, comment se situe l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance était l'ombre des choses, la préparation, l'attente de choses meilleures, l'attente du Messie. Alors, lorsque le Messie arrive, c'est la réponse à cette attente. Le Nouveau Testament est la réponse à la prière, à la demande qui monte tout au long de l'Ancienne Alliance. Venir pour une certaine heure, celle de Gethsémané, celle de Golgotha, comme l'a fait Jésus, c'était venir pour accomplir la loi et les prophètes. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons, Seigneur, considérer à la lumière que tu veux faire briller sur tes révélations. Nous voulons considérer, Seigneur, la grandeur de ton plan. Nous comprenons, Seigneur, comment, avec les dispositions de l'Ancienne Alliance, tu es allé chercher les hommes là où ils étaient, dans le fond de leur aveuglement, dans la proximité des actions de corruption de l'humanité. Tu es venu le prendre là, dans son péché. Et, Seigneur, tu l'as éduqué, tu l'as préparé, car tu voulais préparer un royaume pour tous ceux, Seigneur, qui écouteraient ta voix et qui te suivraient. Et cela, tu l'as accompli pleinement en Jésus-Christ. Amen.